Bon, bah écoutez, je dois dire que je suis un peu dépaysé. Je n'ai pas l'habitude d'une compagnie aussi anthropologique, mais encore qu'au laboratoire, nous sommes bien entourés aussi. Je suis très, très content d'abord d'avoir été invité, puis d'avoir pu découvrir votre ouvrage. Hein. J'avoue que, oui, effectivement, moi je ne le connaissais pas du point de vue du laboratoire. À la lecture, je me suis dit une première chose, c'est quelque chose qui devrait être lu par les étudiants en architecture, là où j'enseigne, étant moi-même architecte, parce qu'il permet véritablement, à mon sens, de bien comprendre les enjeux du sensible, en tout cas ceux qu'on veut aussi poser de notre point de vue, hein, du point de vue de l'ambiance, tel que l'a évoqué Rachel ou Jean-Paul. Parce que c'est effectivement là que se trouvent de nombreuses questions, notamment par le fait que vos références ne sont pas uniquement dans la... Comment dire? Ne font pas uniquement appel aux connaissances académiques, puisque vous faites beaucoup allusion au cinéma et finalement à la révélation du sensible à travers le cinéma. Alors ça m'a fait poser une question, je veux dire, beaucoup d'exemples sur le cinéma, assez peu finalement sur l'espace, proprement dit, c'est-à-dire l'espace tel qu'il est construit, tel qu'il se pratique dans les expériences que vous décrivez. Et puis, une question aussi qui vient à l'esprit à travers cette approche-là, qui est qu'à un moment donné de ce livre, vous dites qu'il y a des choses qui ne peuvent pas, que l'on ne peut pas faire émerger par le moyen de la langue, du dire ou de l'écrit, et que c'est à travers peut-être une autre représentation, par exemple celle du film, qu'on peut montrer des choses qui sont finalement assez irréductibles, difficiles à transmettre, et que nous avons même, nous, du mal parfois à transmettre dans notamment l'enseignement de l'architecture. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois présent, hein, le sensible, mais qui, dans votre livre, est présenté précisément comme un processus qui n'est pas seulement de la réception esthétique, mais par rapport à une œuvre donnée, pensée, achevée, voire subie peut-être, je ne sais pas, et qui n'est pas non plus une pure émotion détachée. Vous dites le sensible n'existe pas en soi, mais dans un acte qui s'élabore à plusieurs, et c'est ce vivre ensemble qui s'inscrit dans une mémoire, une durée partagée, non dans un espace public dans lequel ont lieu des pratiques sociales. Donc tout ça, moi j'avoue qu'en lisant votre ouvrage, ça résonnait très fortement avec certains travaux qu'on a pu mener sur la question des espaces publics, des ambiances, effectivement de dimensions sensibles parfois régulièrement oubliées, comme le son, le sonore, ces dimensions sonores qui en même temps accompagnent tous les moments de la vie et n'est pas détachée de notre expérience corporelle, puisqu'on oublie trop souvent que finalement on entend avec l'oreille, mais on entend aussi avec tout le corps. Alors, ce qui me posait aussi question par rapport à la description du sensible, puisqu'il s'agit en fait, vous le dites, de saisir les infimes variations du sensible, qui deviennent aussi importantes à révéler, en évitant un retour à un subjectivisme. Et où je me posais la question, une question qui vient d'ailleurs d'être posée, c'est de savoir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui reste descriptible pour du commun, et vos descriptions sur le Japon, l'inclinaison corporelle, des choses comme ça, montrent un certain nombre d'éléments communs. Mais on se pose aussi souvent la question, dans la saisine d'ambiance, de savoir comment, finalement, elle est partagée, et comment on peut saisir ce partage. Alors, dépaysement aussi, vous faites allusion, je crois, à un moment du livre, à Husserl, je crois, à la phénoménologie de Husserl. Vous dites il faut savoir se déprendre, pratiquer l'époqué, s'étonner, douter, interroger, se méfier, suspendre, surpendre, déplacer et déstabiliser. Et je pense que là aussi, c'est un point assez fort en commun avec les approches qu'on a pu mener au Cresson, hein, au laboratoire Cresson, sur les ambiances, dans la mesure où, précisément, se déprendre, c'est-à-dire ne pas prendre l'objet tel qu'il est, mais essayer de le saisir dans la manière dont il nous apparaît, dont on peut le sentir, est un des éléments essentiels de pour désapprendre effectivement un certain nombre de réflexes, de catégorisations, de dire une porte est une porte et rien d'autre, par exemple. Je parle beaucoup de lieux, hein, d'espace, où une fenêtre va être une fenêtre et on ne l'interroge pas plus au-delà de cela. Et en fait, on se rend compte qu'en travaillant sur les ambiances, précisément, une porte n'est pas toujours exactement la même qu'une autre. Sans doute parce que, d'une part, elle n'est pas pratiquée de la même manière par chacun d'entre nous. On peut la passer de différentes façons. Mais aussi parce que ça a une formation spatiale, peut-être sa manière de laisser passer la lumière ou les sons, la fait varier. Et c'est une dimension qui peut être assez commune avec cette notion de variation que vous utilisez assez souvent dans le livre, qui, pour ma part, en tout cas, me questionne aussi beaucoup par rapport aux espaces construits. Hein. Puisque lorsqu'on s'intéresse aux sensibles dans la pratique d'habiter, que ce soit la pratique d'habiter, des espaces domestiques, des espaces publics ou d'autres espaces, non plus comme seulement comme emplacement, mais comme production d'un milieu, hein, avec des intensités, des variations temporelle, dans la durée, dans des processus d'usage, bien effectivement, on est amené à ne plus peut-être catégoriser les choses exactement de la même manière que l'on a l'habitude de le faire avec les outils, courants, hein, dans cette pratique de dénommer l'espace. Alors, c'est pour cela que la notion d'anthropologie modale, hein, plutôt que structurale, donc vous avez très bien exposé à l'instant, résonne complètement avec l'idée qu'effectivement, ce sont ces modalités de perception, de sentir ou de sensation d'éléments qui sont effectivement corporels, mais aussi spatiaux. Et quand on dit corporel, peut-être qu'il ne faut pas réduire le corps à des aspects purement sensorimoteurs, puisque peut-être on peut du coup aussi oublier, encore une fois, peut-être des dimensions comme le son, qui ne renvoie pas uniquement à du moteur. Alors, cette anthropologie des modes, des modifications, des modulations, qui implique de rendre compte du caractère ductile ou flexible, comme vous le dites, de l'expérience sensible, s'intéresserait précisément à tout ce qu'a rejeté le logos, et je crois que c'était un des enseignements de notre initiateur, hein, du laboratoire, Jean-François Augoyard. Et j'étais d'ailleurs étonné que dans les ouvrages que vous citez, le travail sur le cheminement, le pas, la marche de Jean-François Augoyard, qui renvoie précisément à ces types de modalités ou de rhétoriques-là, était... s'inscrit tout à fait, nous semble-t-il, dans cette perspective. Alors, c'est vrai que du coup, notre travail sur les ambiances, difficile à définir d'ailleurs, puisqu'on dit les ambiances ou l'ambiance, déjà avec ici peut-être des distinctions à avoir entre ce qui relève d'ambiance qui varie ou d'une ambiance qui nous habite, en quelque sorte. Donc, rejoint complètement, à mon sens, cette pensée et y répond même, puisque l'ambiance, c'est ce qui nous fait penser des processus de formation ou de transformation sensible. Et elle met au premier plan des modalités d'expérience, me semble-t-il, à la fois comme champ d'observation pour le chercheur, moi je me situe comme chercheur et architecte, et aussi de pratiques sociales, de pratiques sensibles, qui sont celles qu'on peut décrire à travers les éléments, les uns et les autres, que nous gladons en observant des lieux. Alors, d'autre part, cette pensée des ambiances renvoie à des manières de voir, d'écouter, de sentir, et pas seulement à l'idée d'ambiance qui est contenue dans une approche plus peut-être physique des choses, c'est-à-dire qui dirait que l'ambiance est le résultat d'un ensemble de paramètres physiques comme la lumière, le son ou le climat. Hein, qui constituerait l'environnement peut-être de chacun. Mais en même temps, on voit que ces manières d'écouter, de sentir, sont quand même confrontées à ces données peut-être plus objectives, dans la mesure où être dans une foule, marcher dans un ensemble de personnes qu'il faut éviter, eh bien, met en jeu ses capacités de voir, d'entendre, de sentir, et donc des possibilités d'action, en quelque sorte, qui permettent de se frayer un chemin dans la foule. Alors, du point de vue de l'architecture, puisque c'est quelque chose qui, évidemment, me questionne, et qu'elle, d'une certaine manière, pense le corps. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Frank Lloyd Wright, et donc vous avez dit ben, le maître a été détruit, et en fait, lui-même s'était référé, référencié à l'espace japonais pour précisément déconstruire ce qu'on appelait la boîte occidentale, l'espace fait de pièces successives. Et précisément, il était en fait allé plusieurs fois au Japon, et ce dépaysement a aussi sans doute, pas seulement ce dépaysement, mais en tout cas en partie, alimenté sa manière de produire un espace qui était largement différent des habitudes de conception antérieures. Donc on le situe souvent comme le précurseur de cette architecture moderne avec ses racines au Japon, donc suite à ce dépaysement. Et donc, l'architecture, elle pense le corps, elle ne fait même que cela, finalement. Elle ne le représente pas comme le cinéma ou la peinture. Elle se définit, en fait, par rapport à lui. Hein. Il ne faut pas oublier que, finalement, les premières mesures, elles étaient référées au corps. Le pied, la main, la toise, etc., sont des éléments qui ne sont pas encore, comment dire, normalisés par un ensemble de catégories, le mètre. Et, en fait, en donnant des dimensions, en orientant les choses, la lumière, le climat, les usages, elle modèle, en tout cas, une partie de ce qu'il peut être fait avec l'ambiance. Et il faudrait rappeler aussi que finalement, l'architecture qui est souvent critiquée contourne quelquefois cette normalisation des choses, de l'espace, des distances, et elle est aussi peut-être un mode de résistance, parfois, peut-être pas toujours, à ces normalisations que l'on peut voir dans différentes productions de l'architecture ordinaire. Et d'autre part, alors c'est assez marrant parce que je dois dire que je vais essayer d'écrire un texte sur l'idée de l'architecture modale, justement, ou de l'architecture qui nous modalise, c'est-à-dire qui permet finalement de modaliser les dispositifs qu'elle produit à travers l'expérience qu'on en a. En fait, tout à l'heure, je parlais de la porte, de l'ouverture, de la fenêtre, bref, d'instruments spatiaux qui sont mis en œuvre dans nos usages de tous les jours. Je pense par exemple à la manière de descendre un escalier. Hein. On avait une fois, avec des étudiants, observé systématiquement la manière de descendre un escalier, notamment celui de la BNF. Et une des observations avait montré des personnes qui prenaient l'escalier exactement sur l'arête, la rencontre des deux angles, à angle droit, et qui suivaient strictement la ligne de l'angle droit. Donc, vous se posez la question, pourquoi prendre un escalier de cette manière? C'est absolument pas évident du point de vue de la démarche. C'est plutôt naturel de prendre les marches de front que de prendre l'angle et de descendre en suivant strictement l'arête. Évidemment, on n'a pas de réponse à cela, mais on voit que finalement, cette idée qu'un dispositif, il se modalise, un dispositif architectonique, se modalise à travers une possibilité de l'utiliser. Et ce sont ces variations-là hein, qui me paraissent précisément intéressantes dans une perspective qui nous pose question à nous du point de vue de la constitution hein, d'un lieu, autrement que par quelque chose qui est déterminé par-dessus, à l'avance, mais par, précisément, les potentialités d'usage, peut-être une poétique des ambiances, en tout cas moi que j'appelle ainsi, qui montre qu'elle n'est pas entièrement créée, achevée, mais qu'elle configure dans ses possibilités d'action. Donc c'est en ce sens que du côté de l'architecture, on peut distinguer des catégories, c'est vrai, les formes, les dispositifs, qui sont peut-être définis a priori, comme je disais tout à l'heure, la porte, la fenêtre, mais qu'on peut peut-être les distinguer de ces formes a priori, de leur formant, c'est-à-dire de la manière dont elles se reforment, se déforment, se reconfigurent au moment où je l'habite. Et donc c'est plus le phrasé de ces usages que des conditions définies par avance qui peuvent être là aussi rentrées en résonance avec l'approche que vous définissez dans le livre donc L'anthropologie au coin de la rue. Alors c'est tous ces éléments-là qui me paraissent effectivement trouver beaucoup d'affinités hein, dans l'approche que vous décrivez et celle qui peut être la nôtre en essayant de se placer du côté de cette activité finalement configuratrice qui remodèle en quelque sorte à la fois les dispositifs et la nature des ambiances qui sont produites. Alors j'avais d'autres exemples pour dire en fait comment ces différents peut-être dispositifs hein, mettent en question justement les capacités d'usage, notamment de la marche, mais pas seulement de celle-ci. Lorsqu'on avait travaillé par exemple sur les espaces souterrains, le Louvre et les Halles avec Jean-Paul Thibault, j'avais remarqué qu'une partie des sols très lisses du Louvre permettait précisément d'entreprendre un pas glissé, en quelque sorte, et une manière d'occuper le sol que, en fait, sur lequel on patine, en quelque sorte. Alors, ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que cette observation-là, elle n'est pas née de l'observation visuelle, d'abord, mais de la présence sur la bande-son de ces traînées très chuintantes dont on pouvait se poser la question de leur origine. Donc vous voyez que c'est pas par peut-être d'abord par l'observation visuelle qui est advenue cette question-là, mais par simplement l'apparition dans le donné sonore, puisqu'on utilise assez fréquemment, même très souvent, ce donné sonore comme un indice possible, comme un révélateur possible des choses telles qu'elles sont en train de se faire, comme on cherche à le surprendre en quelque sorte. Et donc ce pas glissé sur le sol lisse du Louvre peut-être était une manière d'occuper le sol, de le modaliser, hein, de finalement le rendre sensible, de le sentir, mais aussi du coup d'exprimer avec une manière de marcher. Donc voilà ce genre d'observation qui me paraît peut-être pouvoir répondre et en même temps alimenter toutes les questions que vous posez sur la nécessité d'être attentif aux détails, à ces inflexions, à ces flexions qui sont significatives et qui, pour nous, du côté de l'aménagement, que ce soit du côté de l'aménagement des espaces publics ou de l'architecture elle-même, permet de questionner un ensemble de peut-être de normes, un ensemble de préjugés, hein, comme il a été dit tout à l'heure, sur lesquels on peut appuyer d'autres peut-être manières de faire. Alors, c'est vrai que l'architecture peut être aussi, de ce point de vue, assez déstabilisatrice et dépaysante. C'est d'ailleurs parfois son rôle, comme je le disais tout à l'heure, d'être assez critique, anormative dans certains cas, et donc aussi de nous dépayser. Je me demande si là-dessus, il n'y aurait pas des travaux à faire aussi. On parle beaucoup, sans doute, d'interculturalité, en tout cas de différence par la culture. Est-ce que les modèles spatiaux qui orientent la production architecturale ne sont pas aussi questionnés de ce point de vue-là? Et comment ils ne dictent pas ou ne dénotent pas trop, parfois, du sensible? Comment des marges de manœuvre sont encore possibles? Et ça rejoint la question d'une politique du sensible que vous évoquez à la fin de l'ouvrage, et qui me paraît tout à fait importante, puisque vous l'évoquez d'une manière en disant que finalement cette politique du sensible, c'est précisément une manière de produire hein, du sensible, et donc elle est tout à fait présente dans le quotidien. Et je pense qu'il y a beaucoup là à faire du point de vue de cette politique du sensible qui met en cause précisément tout. Les préjugés, les a priori, et qui orientent grandement une certaine manière de nous mettre en ambiance, si l'on peut dire. Et ça peut être une manière aussi de contribuer à résister à une sorte d'homogénéisation de la pensée, de la création. Alors, après, je me suis quand même posé deux questions, moi, que je vous poserai pour finir. Précisément, est-ce que Ah non, avant, je voulais simplement rendre compte de cette politique du sensible par un film, puisque vous faites beaucoup allusion au cinéma, un film que j'avais vu récemment et qui s'appelle « Staline est mort, vive les mariés », un film roumain, et dans lequel il y a toute une scène au milieu du film qui est en fait une fête, mais une fête qui se fait dans le silence, sans son. Précisément parce que, malheureusement pour les mariés, ils doivent se marier le 5 mars 1953, et ce jour-là meurt Staline, et donc pendant une semaine, toutes les fêtes, mariages, obsèques et autres naissances sont interdites. Donc pas de fête, pas de bruit, pas de musique. Mais dans le village de Roumanie où se passe le film, eh bien, le mariage est quand même organisé parce qu'on a tué 4 veaux, 2 cochons, et que si on attend une semaine, bah, ce sera foutu. Et en fait, il y a toute une scène pendant un quart d'heure où la fête se déroule dans le silence, c'est-à-dire que des feutres sont installés au pied des chaises, sur les verres, sur les culs de bouteilles, les fourchettes sont supprimées, on mange avec les doigts. On doit donc ne pas parler, évidemment, surtout ne pas rire, parce que c'est bien. On fait quand même jouer l'orchestre Tzigane, mais ils jouent en silence, et donc toute la fête continue comme ça, jusqu'au bout d'un moment où la mariée, pète un câble, c'est le cas de le dire, dit c'est pas possible de faire une fête sans le son, et tout éclate, et alors là, tout le son arrive. Évidemment, malheureusement, les soldats soviétiques ne sont pas loin, ils entendent, et ils débarquent, et donc ils embarquent. Donc ça montre tout à fait, en fait, cette tension qu'il peut y avoir, enfin, de la politique du sensible, qu'il a évidemment poussé à outrance, mais et encore une fois, là, un exemple sonore qui montre comment ça peut être en jeu, là, d'une manière très mise en scène, enfin, qui marche extrêmement bien, mais qui en même temps peut être sur des points quotidiens tout à fait ordinaires, quand on réfléchit simplement à l'usage de sa fenêtre pour appeler quelqu'un, ou à des éléments de cet ordre-là, des usages de l'espace public, qui sont en fait des preuves de cette possibilité ou impossibilité d'utilisation sensible des lieux. Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Encore une fois, je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui viennent conforter en quelque sorte la démarche que l'on peut entreprendre et qui alimente fortement l'idée de la prolonger sur les ambiances construites.